Cours de critique par le père Philippe à Saint-Jeudard le 19 décembre 1991.
Une question un peu extrinsèque à la critique, mais je la donne quand même à propos de l'assimilation en critique. Alors, tout à fait autre chose. Pourrait-on qualifier l'assimilation qui se réalise chez le chrétien lorsqu'il communie au corps du Christ? Oui, Jésus veut se donner sous la forme de l'aliment pour exprimer un mystère d'assimilation. C'est sûr. Il ne s'agit pas d'une assimilation intentionnelle. Sacramentelle. S'agit-il d'une assimilation réelle sur un mode spirituel? Il faut distinguer, puisqu'elle est sacramentelle. C'est un sacrement. Dans tout sacrement, il faut distinguer le signe et la res. La res, la réalité, le mystère. Le signe et la réalité. Tout sacrement est une œuvre d'art de l'Esprit Saint. Donc, je distingue toujours l'aspect signe, visible et le mystère. Dans tous les sacrements. Ça, c'est la théologie. Le chrétien, lui, y croit, c'est tout. Pas très bien ce qui se passe, mais il croit. Et l'Eucharistie, c'est le sacrement de l'aliment. Divin et qui se donne sous un aliment, point de vue sacramentel. Alors, assimilation physique, biologique des espèces du pain, des espèces du pain et du vin. Comme quand vous mangez un morceau de pain. On n'assimile pas la substance. C'est les qualités qu'on assimile. L'assimilation est au niveau biologique. Biologiquement, je ne peux pas distinguer une hostie consacrée et une hostie non consacrée. Biologiquement, je ne peux pas. Scientifiquement, je ne peux pas. Donc, biologiquement, il y a assimilation. Pain, des espèces du pain et des espèces du vin. Et ceci, puisque c'est un sacrement, est le signe sensible d'une assimilation mystique, voilà le mystère, du corps du Christ. Et comme dit saint Augustin, ce n'est pas moi qui ramène le corps du Christ à moi-même. Ce n'est pas moi qui assimile le corps du Christ, c'est le corps du Christ qui m'assimile à lui. Et cette chose très 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 forte et très belle, il y a comme une espèce d'inversion. Au niveau biologique, j'assimile les espèces de pain et de vin. Au niveau mystique, c'est le corps du Christ et le sang du Christ qui m'assimile à lui. Donc, vous voyez, deux assimilations. Et en comprenant bien, l'assimilation mystique, c'est le grand mystère du Christ qui me veut un substantiellement avec lui. Le mystère du corps mystique. Et l'Eucharistie, c'est le sacrement du corps mystique. Comme dira saint Thomas, la réalité restantum, la réalité dernière, c'est le corps mystique. C'est-à-dire moi-même uni au Christ d'une manière telle que je suis un corps avec lui. Et saint Thomas précisera, quasi una persona. comme une seule personne. Alors voyez comment le signe exprime le mystère. Bien, je suis en face d'un mystère qui est au niveau des sacrements. Le sacrement implique toujours un signe et une réalité mystérieuse, mystique. Alors, autre question. Là, on est dans la critique. Au niveau de l'appréhension, vous posez deux formes intentionnelles. Pour expliquer, pour analyser la simulation. Quand je dis chat, hein, quand je dis chat, et que j'essaie de prendre conscience de ce que je dis, hein, en réfléchissant bien, j'assimile la quiétude du chat. C'est bon ou mauvais, c'est intentionnel. Le chat que j'assimile, il n'est pas touché, le petit chat. Que je pense à lui, que je ne pense pas à lui, ça lui est totalement indifférent. Il n'a pas bougé. Sauf si je regarde trop, alors il y aura un magnétisme sur le chat qui fera qu'il va se tourner ses deux oreilles. Parce que je le regarde fortement. C'était comme en Suisse une fois, je prenais un petit train du côté de Neuchâtel, j'étais en clergyman. Alors, je vois tout de suite deux types touchant du bois. Alors je crie très haut, ça n'a aucune importance, je l'ai vu avant. Il est devenu blême, je suis une espèce d'imbécile. Là, il était pincé, vous comprenez? Toujours du bois. C'est ce qu'il faut dire. Comme ça, on les prend dans leur propre assimilation. Vous voyez, imaginative. Parce que toucher du bois, parce qu'on voit un curé. Ça existe encore, ces choses-là. Alors. Quand je regarde le petit chat, il n'est pas changé. Parce que lui, il n'est pas superstitieux. C'est une assimilation. Voir un curé, c'est une assimilation intentionnelle. C'est pas plus que ça. Alors, mais cette superstition-là, c'est imaginatif. Donc, il faut montrer qu'on devance. Qu'on l'a vu avant et qu'on l'a pas changé. Voyez bien. Alors, il faut expliquer cette assimilation intentionnelle. Le chat n'est pas changé. Moi, je suis changé puisque je pense au chat. Cogito. Cogito, chat. Je pense le chat. Quand je dis cogito tout seul, c'est moi. Je pense. Forcément à moi. Comme Descartes est bien élevé, il dit pas je pense à moi. Il dit cogito. Je pense. Mais en réalité, si je pense, je ne pense qu'à moi. Puisqu'il n'y a personne d'autre. L'autre est évanoui. Donc c'est Descartes. Cogito, c'est toujours Descartes. C'est une manière de s'éterniser. Alors, il faut expliquer l'appréhension qui est une assimilation. J'assimile chat. Il faut donc que la forme du chat soit présente au point de départ de l'assimilation et qu'elle soit au terme. Autrement, il n'y a pas d'assimilation. Quand vous assimilisez, quand vous mangez une carotte, il faut que la forme carotte, la réalité carotte, puisque c'est une assimilation réelle, physique, biologique, soit au point de départ. Il faut l'assimiler. Ensuite, on dit, vous avez assimilé une carotte, vous l'avez mangée. Elle s'assimile petit à petit. Et elle devient, vous, votre sang, tout est voyez la différence? C'est que dans la simulation biologique, il y a une subjectivité transcendantale. C'est vrai. J'assimile la carotte. J'assimile le beefsteak. C'est toujours moi qui assimile. Subjectivité transcendantale. Vous voyez, Kant est au niveau de la simulation biologique. Parce que ça ne change pas beaucoup. C'est matériel, la carotte ou le beefsteak. Pas pour le goût, mais pour la simulation. Et c'est vous qui assimilez. Et si vous avez mal à l'estomac, ben, il y aura des choses que vous ne pourrez pas assimiler. Et d'autres choses que vous assimilerez. Mais c'est toujours vous qui assimilez. C'est votre assimilation. Et vous êtes malade, c'est l'assimilation d'un malade. Si vous êtes un grand vivant, un bois, dans l'ordre de l'assimilation biologique, vous assimilez n'importe quoi. Et ça passe. Peu importe. Tandis que dans l'assimilation intentionnelle, c'est l'objet que vous voyez qui détermine l'assimilation. Connaître le chat est autre chose que connaître le lion. Connaître l'homme est autre chose. Donc, ce n'est plus la subjectivité transcendantale. C'est ce que vous voyez qui détermine votre assimilation. C'est très important de voir ça au point de vue critique. Parce que ça situe tout de suite Kant. Le premier analogué de l'assimilation, il l'a considéré univoquement. Alors que, de fait, les assimilations vitales sont analogiques. Regardez un article magistral de Saint-Thomas sur l'assimilation vitale. Quatrième livre du Contrat Gentilès, chapitre 11. Une petite synthèse sur l'assimilation qui est extraordinaire. Faut au moins avoir lu ça. C'est en théologie qui dit ça. C'est pour entrer dans le mystère de la très sainte Trinité. C'est extraordinaire, c'est une beauté. Et c'est un article qui est fait comme ça. Le quatrième livre du Contrat Gentilès, chapitre 11. Ça demande montre que l'opération propre du vivant, c'est l'assimilation. Et la science n'a rien changé là-dessus. J'ai demandé à mon ami professeur de médecine, qui aime la biologie et qui a son doctorat de biologie, si je pouvais caractériser aujourd'hui le vivant comme celui qui assimile. Il me dit, c'est exactement ça. Le vivant assimile, il assimile. Et votre vitalité, le baromètre de votre vitalité, c'est selon votre assimilation. Quand vous baissez au point de vue vital, vous n'assimilez plus. N'ai plus envie du tout de manger. C'est un signe d'une civilisation, ça. Les gens ne veulent plus assimiler. Ils manquent de vie. Le point de vue intellectuel, c'est ça aussi, hein. On a soif d'assimiler. On assimile. La critique vient après. Si vous n'avez rien assimilé, vous pourriez critiquer. Là, vous voyez tout de suite que la critique est seconde. Parce que la critique n'assimile pas. Elle discerne. Elle fait un discernement. Dans toute assimilation, on assimile et on rejette. Et quand on n'est plus un grand vivant, on ne rejette plus. On assimile plus rien. Alors on ne rejette plus rien. D'où empoisonnement. Et la critique est là pour aider le discernement. C'est très curieux. Ce qu'on rejette, il y a des choses qui ne sont pas assimilables. Et il y a ce qui est assimilable. Et quand on est un petit vivant, ou un moribond, je crie en même, Un moribond. On pourrait mettre moribond intellectuel. Quel est le moribond intellectuel? C'est celui qui n'accepte plus l'abstraction. Alors, il s'empoisonne. L'ipsolipsisme. Il s'empoisonne. Et c'est vrai, ça. Il est un moribond intellectuel. Il est dans le coma. Il ne rejette plus rien. Alors il s'empoisonne. Mais une comparaison extrêmement forte, celle-là. Et c'est vrai, il y a la loi du vivant. Et le vivant assimile. Et pour assimiler, il est en bonne santé. Ben, il faut qu'il rejette tout ce qui est quelque chose qui est mauvais, qu'il ne peut pas assimiler, qui est inassimilable, selon les lois de ce vivant. Parce que l'animal assimile comme l'homme, mais il n'assimile pas toujours les mêmes choses. Il y a des animaux qui peuvent assimiler des tas de choses que l'homme ne peut pas assimiler. Il y a des choses que l'homme peut assimiler que l'animal n'assimile pas. Très curieuse, hein? La loi biologique, tout simplement. Alors, on retrouve ça philosophiquement en réfléchissant. Qu'est-ce que c'est qu'assimilation? Qu'est-ce que c'est qu'assimiler? Assimiler, c'est de faire que quelque chose qui est autre que moi devienne moi. C'est la différence entre le tas de briques et celui qui mange. Le tas de briques, on ajoute de l'extérieur. Alors ça s'accumule. On assimile rien du tout. Vous mettez une brique, une autre brique, une autre brique, c'est tout. Un tas de briques. C'est extérieur. Et tout est extérieur. L'assimilation est au-delà de la quantité. Puisque la quantité extériorise. Et l'assimilation intériorise. Puisque ce qui était extérieur devient moi. Dans l'assimilation. Et c'est le propre de l'assimilation. Et pour que l'autre devienne moi, tout l'autre ne peut pas devenir entièrement moi. Il faut donc rejeter tout ce qui n'est pas assimilable. Et celui qui est en bonne santé n'y pense même pas. Celui qui est malade, il fait l'abstraction avant. Ça. Il prend son pendule et puis il dit ça, c'est pas bon. Voilà ce qu'il faut que. Alors, quelquefois, ça devient une hantise. Une hantise. Il est malade d'avance. Parce que j'ai pris du poison. Un grand vivant prend du poison. Tant pis. Naturellement. Mais dès que vous êtes malade, vous avez un régime. Qu'est-ce que c'est que le régime? Vous pensez tout de suite à l'assimilation. C'est que votre estomac devient incapable de rejeter tout ce qu'il faut rejeter. Alors, il faut le faire avant. C'est curieux ça. Et voyez, dans la fémologie, on met entre parenthèses l'exister. C'est un régime philosophique. Sont les malades. Husserl était un mathématicien. Il a fait son doctorat en mathématiques. Il a continué de faire une métamathématique. Et ça, c'est la fémologie. C'est important de comprendre ça. Et tout le monde se met à sa suite. Et la philosophie devient une philosophie de régime. Et on s'y habitue d'une façon telle que si on ne vous donne pas le régime, vous hurlez. J'ai pas mon régime. Je vais être malade. Une espèce de grand vivant, de petit vivant. Oui, c'est très curieux tout ça. Il faut essayer de comprendre ce réalisme de l'assimilation, de la vie biologique, de la vie intense. passage entre les deux. Alors, pour l'assimilation, il faut que la détermination de l'assimilation soit antérieure et vous la retrouvez au terme. Donc c'est pour ça qu'il y a les deux formes, les deux déterminations. Qu'est-ce que la première forme intentionnelle? Je disais, selon l'expression scolastique, la species impressant. On va y revenir du reste. Est-ce que l'image sensible que je porte en moi et qui recevra un mode d'exister totalement immatériel grâce à l'intellect agent? Ah, alors, c'est le problème que nous allons voir maintenant, parce que nous avons vu ça à toute vitesse la dernière fois. C'est bien dit. Donc, j'ai assimilation intentionnelle. Et ceci, c'est l'appréhension. L'appréhension assimile intentionnellement la forme intentionnelle. La première forme intentionnelle pour concevoir la forme intentionnelle concept. Pour concevoir le fruit de cette assimilation intentionnelle, c'est le concept. Ça, c'est très important, préciser, de la naissance du concept. À quel moment le concept apparaît? Alors, ici, comprenez bien, il y a toute une série de philosophes, depuis Descartes, depuis Platon, qui disent que, naturellement, mon intelligence est déterminée. Une série d'idées dès ma naissance. Mon âme spirituelle est entièrement déterminée par des formes innées, donc des formes a priori innées. Vous retrouvez ça chez Descartes, vous retrouvez ça chez Kant. Toute une série chez Rosmini, le dernier. Dit qu'on est avec l'idée d'être. Donc il y a une intentionnalité. Aristote, face à Platon, dit pas du tout. L'intelligence, au point de départ, est tabula rasa. Tabula rasa, c'est-à-dire le tableau sans qu'il n'y ait rien inscrit dessus. Tabula rasa. C'est Aristote qui dit ça. Alors, est-ce que vont continuer d'affirmer que l'intelligence est tabula rasa, point de départ. Qu'est-ce que ça veut dire que l'intelligence au point de départ, l'intellect au point de départ, est entièrement réceptif? Je suis obligé, et c'est ma condition humaine, d'apprendre. Je dois tout apprendre. L'enfant commence à parler et même à rire. Il apprend même le rire de sa mère. Ce qui est le propre de l'homme, il l'apprend de sa mère. Puis il commence à parler. Un petit enfant volé par une louve ne sourit plus. Parce que la louve ne lui a jamais appris à sourire. Et il aboie. Comme la louve, et il marche à quatre pattes. Ça, c'est un fait, hein. C'est un fait, on le sait. Pourquoi? Parce que notre intelligence, est au point de départ tabula rasa. Je dois même apprendre à sourire. J'ai appris à sourire. Mais au point de départ, c'est l'imitation. Et le sourire de l'enfant est la continuité du sourire de la mère. C'est la première chose qu'on apprend à un enfant. C'est curieux, hein. On apprend à le regarder et il regarde. Hein. Et puis on apprend à sourire, il sourit. Puis on lui parle, un certain temps. Si je l'avais. Alors, ça, c'est la chose très curieuse d'une mère muette. T'as pas rêvé? Alors, comment l'enfant apprend? S'il n'avait qu'une mère muette et un père muet. Alors, il y a une troisième personne qui viendrait. Pour apprendre à parler. On a tous appris à parler. Comme on a appris à écrire. On a trouvé ça très amusant d'apprendre à écrire. Et apprendre à parler, c'est une chose extra. On a tout appris. Tabula rasa. Vous voyez, Aristote est devant le fait qu'on a, on apprend les choses. On ne les a pas par nature. Donc, lisez le Ménon de Platon. Ça, il faut lire le Ménon de Platon. Et en face du Ménon de Platon, Aristote dit pas du tout. On instruit quelqu'un. On lui apprend quelque chose. On lui apprend à sourire. On lui apprend à parler. On lui apprend à lire. Et on lui apprend à réfléchir. On lui apprend à poser des questions. Notre intelligence s'éveille progressivement. Mais au point de départ, tabula rasa. Et Aristote, en disant ça, sauve l'objectivité de la connaissance. Vous voyez, comment défendre aujourd'hui l'objectivité de la connaissance? C'est le problème de l'appréhension. C'est l'analyse de cette première opération qui implique une assimilation. Je dis chat. J'ai appris le mot chat quand j'ai vu une petite bête là. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Première fois, j'ai dit chat. Tandis que le petit chat, quand il était devant la glace, il a levé la patte. Et l'autre qui était dans la glace a levé la patte. Et le petit chat n'a pas dit chat. Tandis que moi j'ai dit homme. Le petit Jeanne, il n'a pas tabula rasa. On l'a dressé, on ne lui a pas appris à parler. Difficile d'apprendre à parler un chat. Très difficile. Tandis que là, tabula rasa, si c'est tabula rasa, c'est donc la réalité qui a déterminé mon intelligence. Mon intelligence est déterminée par deux choses, la réalité et le langage. Le langage peut très bien être un substitut de la réalité, exactement comme l'argent est un substitut de la marchandise. Le parallélisme que fait Aristote, qui est très joli du reste, hein. Quand on faisait du troc, on n'avait pas besoin d'argent. J'amène au marché un veau. Vous, vous amenez 30 poules. On va changer. Moi, j'aime mieux 30 poules qu'un veau. L'autre dit non, moi, j'aime mieux le veau que 30 poules. Alors, faisons le troc. Changeons. Avant la monnaie, puis on a inventé la monnaie. On a inventé la monnaie pour tout simplement ne pas avoir besoin d'amener 30 poules. Il y en a uniquement deux qui permet ça. C'est ça l'invention de la monnaie. Pour passer du troc à le commerce. Et la monnaie servit d'intermédiaire, comme le langage sert d'intermédiaire. Prenez, je dis TGV, si j'avais pas la parole, je devrais le montrer. Alors, vous voyez ce que ça ferait. Alors, l'analogie entre les deux, c'est très intéressant, du reste, de pousser l'analogie entre la parole sert d'instrument pour m'enseigner.
intéressant de voir qu'on a d'abord fait de l'argent la réalité, la richesse. Et puis ensuite, maintenant, on arrive à faire du langage la réalité. Alors que saint Thomas, à la suite d'Aristote, dit, on ne fait pas de discussion philosophique sur le langage. C'est à partir de la réalité. On n'a pas à discuter sur le langage. Il suffit de s'entendre, puisque c'est un moyen. Alors, cette forme intentionnelle, elle vient donc de la réalité que j'expérimente. J'expérimente cette réalité, ou j'expérimente le langage.
De la représentation.
Or, quand je dis chat, du visible à l'invisible. Vous ne pouvez pas vous représenter la signification, mais vous la pensez. Le gros problème d'aujourd'hui, hein, c'est le problème de la signification. D'où vient la signification? D'où vient le concept? D'où vient votre pensée? La source, l'expérience, qui forme en moi une image, qui est du visible. J'ai une imagination extrêmement fermante, extrêmement fertile, très fermant. J'en ajoute tout le temps. Et ma méditation, c'est de l'imagination extraordinaire. Un spectacle merveilleux. Oui, mais c'est pas la pensée. Non. C'est l'imagination. Notre monde d'aujourd'hui est un monde d'images. Il y a une amplitude d'images. Et au bout d'un certain temps, il n'y a plus que l'image. La réalité est cachée. Le phénomène.
Transformer l'image sensible en une forme intentionnelle.